Comment rendre nos politiques jeunesse inspirantes?
Bienvenue, nous débutons à...
C'est le sujet de ce passionnant EAK numéro 53 du 25 octobre 2022.
Alors cette matinée,
Karine Dartigues-Perrot,
politique de la jeunesse est directement la conséquence de la décision politique de notre président, hein, Georges Siffredi, vraiment d'inscrire l'action départementale et de l'inscrire dans une politique jeunesse qui crée de la transversalité, qui relie tous les dispositifs au sein de la maison. Et c'est ce qu'on va voir ce matin avec donc l'introduction de notre président. Et vous le verrez qu'il y a de l'innovation organisationnelle et avec des partis pris forts. La jeunesse, dit-on, est en souffrance. Alors, c'est ce qui remonte beaucoup de la crise post-Covid, c'est-à-dire où on dit, bah, finalement, pendant la crise, ce sont les jeunes qui, d'abord, ont énormément souffert et que peut-être l'attention nécessite cet éclairage. Mais on le sait également que cette jeunesse est aux prises, finalement, avec toutes les évolutions sociétales que l'on voit. Tous les sondages, toutes les enquêtes montrent à quel point les jeunes sont anxieux des évolutions écologiques, du contexte environnemental dans lequel on est. Donc, se pose la question finalement de bien-être du jeune et comment mettre en œuvre une politique au service du bien-être des jeunes et surtout comment rendre aussi nos politiques inspirantes, parce qu'on le sait, il y a eu beaucoup d'initiatives pour impliquer les jeunes, pour les engager, et en fait, tout ne fonctionne pas véritablement. Donc, la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est trois sujets qui ont remonté aussi de notre atelier Prospective Jeunesse que nous avons organisé au printemps dernier. Trois grands sujets. Premier sujet, c'est que les jeunes, leur vie est digitalisée. Avec, comme le disait Bernard Stiegler, le pharmacon, c'est-à-dire à la fois le meilleur et le pire. Premier sujet. Deuxième sujet qui nous importe grandement ce matin, c'est quelle gouvernance? Comment on s'y prend pour mener des politiques inspirante pour les jeunes? Comment on élabore? Comment on évalue? Est-ce qu'on le fait avec les jeunes? Si oui, lesquels? Ceux qui sont concernés, mais au risque finalement de cloisonner, là où on voudrait au contraire renforcer l'inclusivité. Et puis le troisième sujet, c'est comment on s'y prend?
Après cette introduction de Karine Dartigues-Perrot, responsable des entretiens Albert Kahn, laboratoire d'innovation publique au sein du département des Hauts-de-Seine, c'est son président Georges Siffredi qui indique le cap qu'il a souhaité donner à sa politique jeunesse.
Comment donner ou redonner des perspectives à notre jeunesse pour qu'elle ne soit pas la grande oubliée de ces années marquées par tant de bouleversements et de crises sanitaires, sociales, économiques, écologiques, politiques et géopolitiques? Nous devons trouver les moyens de remédier à ce désenchantement auquel notre société ne peut se résoudre si nous voulons redonner confiance en l'avenir. C'est pour cette raison que dès ma réélection à la présidence de notre département l'an dernier, j'ai voulu créer une délégation à la jeunesse portée par notre conseiller Vincent Franqui et engager une réorganisation de nos services avec une équipe dédiée chargée du pilotage nécessairement transversal des actions que nous menons dans le cadre d'un projet positif, cohérent et lisible à la hauteur des enjeux et des défis que le contexte actuel impose. Car si notre département met en œuvre de longue date un nombre important de dispositifs dans le domaine social, éducatif, sportif et culturel, s'il travaille avec de nombreux acteurs institutionnels et associatifs, on est parfois bien en peine de dégager dans cette pluralité de propositions une stratégie d'ensemble, ni d'évaluer leur pertinence ou leur efficacité par rapport aux objectifs visés. Rien qu'au sein de notre département, nous avons identifié plus de 170 dispositifs. Et force est de constater que trop souvent, ces dispositifs sont peu ou mal articulés entre eux. À la logique de l'offre, nous devons substituer une approche novatrice qui replace les jeunes au cœur de nos politiques publiques, en veillant à leur donner la parole et être à leur écoute. Comment parler à l'immense majorité de ceux qui ne savent même pas que le département existe et agit et qui ont l'impression de devoir faire face seuls. Rien n'est trop difficile pour la jeunesse, disait Socrate. Sans doute, mais la marche est haute pour bon nombre de nos jeunes et notre responsabilité est de leur donner les moyens de la franchir. J'attache une grande importance à la réflexion que vous allez conduire et je compte sur vous pour contribuer à éclairer, alimenter et pourquoi pas aiguillonner la politique que nous allons déployer dans notre département, car vous l'aurez compris, bien la jeunesse, c'est l'avenir de notre département, l'avenir de la France. Tout dépend d'eux, bientôt et demain.
Camille Peny est professeure de sociologie à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Il a publié notamment « Pour une politique de la jeunesse », où il constate que si la jeunesse est omniprésente dans les discours politiques, les réformes gouvernementales, surtout les plus difficiles, se faisant toujours au nom des générations futures, que ce soit les retraites, la réduction de la dette, pour autant, en France, il n'existe pas de vraie politique de la jeunesse.
Moi, quand je dis « pour une politique de la jeunesse »,
Camille Peny,
c'est plutôt l'idée qu'il faut réfléchir à des grands principes universels qui sont liés à une nécessaire réflexion philosophique ou politique de ce que devrait être cet âge de la vie dans des sociétés par ailleurs vieillissantes. Cette politique de la jeunesse devrait avoir deux objectifs par ailleurs. C'est d'abord contenir les inégalités entre les générations dans des sociétés qui vieillissent, où on va, et c'est normal, dépenser de plus en plus pour la prise en charge du grand âge. Il faut se poser la question de l'équité entre les générations. Mais le deuxième objectif de cette politique de la jeunesse devrait être de réduire les inégalités sociales qui fracturent la jeunesse. Et donc, aujourd'hui, on est dans une société, j'y reviendrai, dans laquelle les inégalités se reproduisent plutôt avec davantage de force que dans la moyenne des pays de l'OCDE. Et il faut que ces politiques publiques aient l'objectif de réduire les inégalités qui fracturent les générations.
Pour le sociologue Camille Peny, il est intéressant de se décentrer et de regarder ce qui se fait dans les autres pays d'Europe en matière de politique jeunesse. On s'aperçoit alors que des choix différents produisent des résultats différents. Par exemple, au Danemark.
Au Danemark, pays social-démocrate classique, allais-je dire, devenir adulte, c'est se trouver. Donc le temps de la jeunesse, c'est le temps de l'expérimentation, c'est un temps long. Et ce temps long, ce qui est intéressant, c'est qu'il est rendu possible d'abord par une culture de l'autonomie des jeunes qui est davantage développée dans les familles, donc ça fait partie de la culture familiale, mais aussi et surtout par une forte intervention de l'État. C'est un pays social-démocrate, donc on compte sur l'intervention de l'État pour encadrer cet âge de la vie. C'est l'exemple de l'allocation formation. Tout jeune Danois de 18 ans qui a l'équivalent du baccalauréat se voit financer 6 ans, parce que c'est 72 mois d'études, à hauteur de 750 euros, auxquels peuvent se cumuler 200 euros d'allocation logement si les jeunes ont décohabité de chez leurs parents. J'insiste sur le fait que c'est une allocation universelle, que vos parents soient très riches ou très pauvres, vous bénéficiez de cette allocation parce qu'il en va de la conception qu'on a du jeune qui a 18 ans, devient adulte et doit être aidé en tant qu'adulte. Ça va de pair avec une stratégie de croissance au niveau économique où le Danemark a investi les secteurs très qualifiés de l'économie et donc a besoin d'une population très qualifiée qu'il faut accompagner dans les études. Donc, pas de surprise, on fait confiance à l'État au Danemark. Au Royaume-Uni, pays libéral, on ne fait pas confiance à l'État, on fait confiance au marché. Devenir adulte au Royaume-Uni, c'est s'assumer. Les jeunes Britanniques sont pressés de s'assumer. Ils sont pressés de s'assumer par la culture libérale du pays, mais aussi par la réalité d'un système qui fait que cet âge de la vie doit dépendre du marché. Donc le marché, c'est le marché de l'emploi. Les jeunes Britanniques poursuivent moins souvent leurs études que dans la plupart des autres pays européens. Ils travaillent plus tôt, et quand ils font des études, pardon, ils sont encore plus nombreux à travailler qu'en France. Et le marché, c'est aussi le marché financier, c'est-à-dire que les études coûtent très cher au Royaume-Uni, hein, ça peut être plusieurs milliers de livres pour une année d'études à l'université, et donc il y a des prêts bancaires qui sont généralisés, et c'est logique avec un système libéral où on fait confiance au marché, c'est le marché qui doit permettre aux jeunes de devenir indépendants, autonomes, et de s'assumer. En Espagne, n'est pas l'État, ce n'est pas le marché, c'est la famille. En Espagne, où l'emploi des jeunes et la précarité des jeunes est encore plus répandue qu'en France, devenir adulte, c'est rester chez ses parents jusqu'à ce qu'on ait accumulé les moyens pour s'installer, et très souvent pour s'installer, y compris conjugalement, avec son conjoint ou sa conjointe. Mais c'est dans la culture du pays, l'âge médian de décohabitation en Espagne, c'est 27 ans. À 27 ans, la moitié des jeunes espagnols habitent encore chez leurs parents. Au Danemark et au Royaume-Uni, c'est 21 ans. D'accord ? En France, eh bien, nous avons un modèle hybride. Nous avons un peu d'État et de puissance publique, par exemple les bourses pour les étudiants sous conditions de ressources. Nous avons un peu de marché. Les étudiants français sont de plus en plus nombreux à travailler, ils sont de plus en plus nombreux à emprunter pour financer tout ou partie de leurs études. Mais nous avons surtout, dit Cécile Van de Velde, beaucoup de familles, mais beaucoup de familles non assumées par la société. On n'est pas un pays latin où rester chez ses parents jusqu'à un âge élevé est accepté socialement. Tanguy, le film Tanguy, n'est même pas sorti en Espagne, parce que ça ne ferait rire personne, c'est normal d'être... voilà. Bon, en France, celui qui reste chez ses parents jusqu'à un âge tardif peut être sujet de moquerie. Mais donc, notre système français repose sur la famille, mais de manière pas assumée par la société. Et donc, on aurait en quelque sorte des Français, des jeunes Français, qui feraient face à une exigence assez libérale. Il faut se prendre en charge, il faut devenir indépendant, il faut devenir autonome. Mais en même temps, un état des politiques publiques qui les contraint à vivre cette période sous la dépendance de la famille, dans une sorte d'angoisse de l'insertion, beaucoup plus présente que dans les autres pays. C'est pourquoi devenir adulte en France, c'est s'insérer sur le marché du travail. Moi, ce que je proposerais volontiers, c'est que nous nous dotions d'une conception philosophique ou politique de ce que doit être cet âge fragile de la vie. Et moi, ce que je pense, c'est que la jeunesse doit être, un peu comme dans les pays scandinaves, le temps long de l'expérimentation. On nous répète sans cesse que nous allons vivre jusqu'à 95 ans. Tant mieux. On nous répète sans cesse que, par conséquent, travailler jusqu'à 65, 68, puis 70 ans peut-être, c'est naturel et c'est normal. Très bien, mais du coup, moi ce que je dis, c'est que dans un tel allongement de l'existence, dans un tel déplacement des temps de la vie, il n'y a aucun sens à ce que le temps de la jeunesse soit celui de l'insertion, où les familles et les jeunes, saisis par cette angoisse, se dépêchent de cesser d'être jeunes. Et je pense que dans des sociétés vieillissantes, il faut au contraire que les jeunes puissent avoir le temps de devenir adultes et puissent tout simplement avoir le temps d'être jeunes. Je pense que ce temps de la vie doit être davantage encadré par l'État plutôt que par la famille. Une autre manière de le dire, c'est de dire qu'il me semble important de faire coïncider l'âge de la majorité politique, 18 ans, avec l'âge de la majorité sociale. Considérer les jeunes comme des citoyens à part entière à partir de 18 ans est plutôt une bonne chose. Et il me semble qu'à partir de cette conception, on peut penser un certain nombre de droits universels et protecteurs pour réduire le millefeuille dont nous constatons toutes et tous la relative inefficacité. Il me semble que nous devrions réfléchir à la mise en place d'un type d'allocation étudiante universelle qui soit ouverte à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale. Les économistes très sérieux de l'École d'économie de Paris avaient chiffré ça à 5 ou 6 milliards d'euros par an. C'est pourquoi je pense qu'à moyen terme, la principale objection n'est pas financière, elle est idéologique. C'est est-ce qu'on accepte de considérer qu'il faut aider les jeunes directement, et tous les jeunes, plutôt que faire passer ça par le truchement des politiques familiales. Donc là, c'est un débat politique, au sens noble du terme, à avoir. Mais je suis certain que cette conception de la jeunesse comme le temps long de l'expérimentation pourrait donner un cadre aussi à ce qui est possible de faire au niveau régional, au niveau départemental ou au niveau de toutes les collectivités locales. Merci de votre attention.
Patrice Huert est ancien chef de service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, ancien vice-président de la Maison des adolescents du Sud des Hauts-de-Seine. Avec lui, nous posons la question du bien-être des jeunes. Il nous livre sur ce sujet quelques constats liés à sa pratique de pédopsychiatre, ainsi que ce qu'il appelle en tant que médecin ses remèdes.
Alors, l'anticipation est quasiment impossible. Qui peut aujourd'hui anticiper l'avenir de son enfant, alors que dans les générations antérieures, on pouvait à peu près imaginer, en tout cas, se représenter ce qui allait pouvoir se passer. Aujourd'hui, il va falloir, pour les jeunes, apprendre à faire face aux surprises et aux nouveautés de la vie sans qu'il ait pu être préparé à cela par ses ascendants. Ça, c'est une nouveauté dans les transmissions et les priorités éducatives. C'est pas « je te transmets le mode d'emploi pour que tu puisses te débrouiller dans la vie », c'est « je vais te transmettre les moyens de faire face à quelque chose d'inédit que je ne connais pas, pas plus que toi ». Ce qui change complètement, évidemment, la vocation de l'école. Et de pouvoir trouver, dans ce caractère inédit de l'avenir, inimaginable de l'avenir, d'y trouver suffisamment de satisfaction, plus que de l'angoisse. Ça, c'est un défi pour tous ceux qui s'occupent des enfants. Et ces compétences psychosociales d'adaptation seront à l'avenir, et d'ores et déjà, un atout qui va être aussi important, si ce n'est plus, que les compétences académiques. Devant tous ces défis, certains vont baisser les bras en estimant que rien ne va plus. Le monde court à sa perte. Bon, il y en a toujours eu, à toute époque, et aujourd'hui, tout autant. Alors, quelques remèdes. Le premier remède qui me semble absolument nécessaire, c'est la réhabilitation du jeu et du rôle tout à fait déterminant de l'acquisition d'une capacité de jeu pour pouvoir se débrouiller par la suite dans la vie. Ce n'est pas juste pour jouer avec des jouets, bien évidemment, c'est pour avoir du jeu, comme on peut le dire dans le langage courant, et avoir la possibilité de se décaler par rapport à la réalité quand cela est nécessaire, de pouvoir éventuellement même en sourire dans le meilleur des cas, mais en tout cas d'avoir du jeu. On peut toujours essayer de rattraper le temps perdu par la suite, c'est ce que je fais quand je m'occupe d'adolescents qui n'ont pas cette capacité de jeu, ou ceux qui s'occupent d'adultes plus tard, mais c'est quand même beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent pour pouvoir réparer quelque chose qui aurait pu se construire tout à fait autrement dans les premiers temps de la vie. Donc le jeu, la réhabilitation du jeu, c'est en Finlande qu'on ne commence à apprendre sérieusement, entre guillemets, mais jouer c'est très sérieux, qu'à partir de 7 ans. Avant, on joue. Mais on laisse une place importante à la construction de cette compétence-là. Le deuxième point, c'est l'école. L'école qui devrait trouver une place un peu différente. Hein. Globalement, on est toujours dans un mode de transmission verticale et restitué ensuite, suivant le tracé du tube digestif, hein, j'ingère, je digère, parce qu'on vous demande d'assimiler, et de restituer de manière correcte. Bon, cette trajectoire verticale digestive a porté ses fruits sur de nombreuses générations, après Jules Ferry, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, il faut peut-être voir les choses un tout petit peu autrement, et que la digestion se passe un peu autrement aujourd'hui pour les enfants et pour les adolescents. Le plaisir d'apprendre. Ce plaisir d'apprendre, c'est-à-dire de retrouver, de trouver des satisfactions face à l'inconnu, face aux surprises. Comment va-t-on pouvoir accueillir la nouveauté ? Finalement, vous connaissez comme moi des deux sortes d'humains, si je caricature. Il y a ceux qui, quand il y a quelque chose de nouveau et d'inconnu, vont dire « chic, je ne connais pas encore ». Et puis il y a ceux qui vont dire « ouh là là, non, moi ça m'inquiète ». Ce rapport au questionnement, ce rapport à l'inconnu, ce rapport à la nouveauté, évidemment, est inégalement réparti. Mais comment peut-on contribuer dès les débuts de l'enfance à faire qu'il soit vivant et demeure vivace ? On est dans une période formidable puisque il y a des défis partout, en famille, dans les institutions éducatives, pédagogiques, de soins. Et personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus stimulant que si on était à une période où tous les modes d'emploi étaient établis, qu'on n'avait rien d'autre à faire qu'à appliquer la recette. Je vous remercie.
Comment rend-on les politiques jeunesse inspirantes ? Plusieurs intervenants à venir sur cette question. Tout d'abord, Pierre Rousty, qui est coordonnateur de territoire à la direction de la jeunesse au département des Hauts-de-Seine. Il est une courroie de transmission entre le département et le terrain. Dans le cadre d'une formation au CNAM, un master prospective et innovation publique, il a mené une mission sur les jeunes dans leur découverte des métiers avant même les phases d'orientation. Pierre Rousty nous donne d'abord quelques chiffres.
Ce que l'on ne sait pas, c'est qu'on a l'impression que nous sommes dans une société où il y aurait 95% de bacheliers, ce n'est pas le cas, c'est qu'entre le collège et le lycée, il y a déjà plus de 30% des jeunes qui vont vers d'autres voies. Donc pour eux, la première phase d'orientation, c'est la troisième. Or, le stage de découverte des métiers, le premier ressenti de ce que peut être une organisation, un métier, le monde du travail, ça arrive en troisième aussi. pour ceux-là, qui sont obligés de se rendre en troisième, ben, c'est un petit peu court, hein, le temps de la réflexion, parce que s'ils n'ont pas découvert par leur milieu familial un peu avant des métiers, ils sont souvent orientés par défaut et pas par choix. Et c'est un vrai gâchis, ensuite, d'abandon, d'errance professionnelle. Donc un autre chiffre, par exemple, c'est qu'en première année de formation, que ce soit d'ailleurs formation professionnelle post-troisième ou post-bac en première année de licence, ce sont 27% d'abandon. 27% des jeunes abandonnent leur première année d'études. N'importe quel sujet que l'on creuse, hein, sur nos territoires denses et riches, on va trouver pléthore d'acteurs qui œuvrent dans le, pas forcément dans le même sens, mais qui œuvrent sur le, la même thématique. Voilà. Et qui ne se connaissent pas forcément, qui sont un peu dans leur couloir, hein, grosso modo, hein, voire même des fois en concurrence, malgré le fait que ce soit de l'intérêt général. Malgré le fait qu'il y ait tous ces acteurs, on a une demande pourtant qui est partiellement couverte. La bonne information au bon moment, au moment où on a besoin, ben elle n'arrive pas forcément au bout du bout, elle n'arrive pas aux jeunes. Voilà. Et le département, il a non seulement un intérêt à agir dans le domaine de la découverte des métiers, puisque ben, ceux qui sont dans l'errance professionnelle, on risque de les retrouver au RSA quelques années après, mais au-delà de ça, c'est surtout dans l'intérêt des jeunes d'avoir un projet. Voilà. Même s'ils changent en cours de route, d'avoir un projet qui tire à la fois la motivation, la scolarité, l'envie de vivre sur ce territoire. On le voit d'ailleurs, se servir du territoire pour rendre plus concrète l'approche des métiers. On est un territoire où on a beaucoup d'entreprises, hein, et pas les moindres. Donc, et on a des marchés publics avec toutes les entreprises. On a de la commande publique, donc on a des leviers pour faire découvrir ces métiers. Vraiment, le stage au troisième, c'est très bien. On a fait des expérimentations de stages hybrides sur les lieux structurants du département. Et je crois qu'avec nos 140 métiers dans la maison, on a vraiment une responsabilité d'en accueillir davantage. Mais il y a plein d'autres moyens de découvrir le monde professionnel. Il y a la petite visite de proximité, parce qu'on connaît l'entreprise qui est à côté du collège. Il y a le témoignage de jeunes, pas beaucoup plus âgés qu'eux, qui sont déjà en alternance et qui vont venir témoigner de leur parcours, hein, de voir justement le parcours. Hein, les agents qui disaient, moi, je t'ai pas parti pour faire ça, et puis j'ai fait ci, et puis voilà, ils adorent ce genre de discours, parce que justement, on sort de du côté anxiogène, de l'insertion à tout prix, et il faut vite que je rentre dans une case. Voilà.
Comment associer les jeunes à la transformation ? Jeanne Demoulin est maîtresse de conférences en sciences de l'éducation à l'Université Paris-Nanterre. Elle raconte ici le projet Pop Part, les quartiers populaires au prisme de la jeunesse. Ce projet, mené sur l'ensemble de l'Île-de-France entre 2007 et 2022, a associé 130 jeunes de 10 quartiers populaires, des professionnels de la jeunesse qui travaillent dans ces quartiers et des chercheurs de différentes disciplines, sociologie, sciences de l'éducation, histoire, sciences politiques. Parmi les quartiers concernés, 3 se situent dans les Hauts-de-Seine, à Suresnes, Villeneuve-la-Garenne et Nanterre. 3 objectifs étaient visés. Tout d'abord, la production de connaissances en associant les premiers concernés, les jeunes, pour avoir une vision plus juste de leur vécu. Car si on parle beaucoup d'eux, c'est souvent sans leur donner beaucoup la parole. Les discours produits sur eux aboutissent souvent à des formes de stigmatisation qui ont un impact négatif sur leur vision d'eux-mêmes et leur trajectoire propre. Le second objectif est celui de la transformation sociale. Et enfin, le projet avait une visée émancipatrice des jeunes.
Donc qu'est-ce qui fait que les jeunes ont souhaité s'impliquer dans le projet au départ ? C'était d'abord de pouvoir prendre la parole et de parler de son quartier et de son expérience pour lutter contre les préjugés et défaire les idées reçues. Tout ceci associé à l'idée de travailler avec des chercheurs, de mener une recherche scientifique pour porter une parole dans l'espace public, étant donné que cette parole est aujourd'hui bien plus légitime que la leur. Donc les jeunes ont aussi été indemnisés pour participer à cette recherche. Ça nous paraissait vraiment essentiel pour reconnaître le travail que nous leur demandions de fournir, mais aussi pour atténuer la symétrie entre les chercheurs, les professionnels et les jeunes dans cette recherche, puisque les chercheurs étaient payés, les professionnels étaient payés, et que donc nous avons choisi d'indemniser ces jeunes. Donc dans la grande majorité des cas, par contre, les jeunes n'ont pas été informés au moment de leur recrutement qu'ils allaient être indemnisés, et donc ça n'a pas constitué un facteur d'engagement initial. Mais ça a pu jouer en revanche par la suite pour qu'ils maintiennent leur engagement jusqu'au bout de ce qui leur était demandé dans ce cadre-là. Donc on a travaillé avec les professionnels pour animer des ateliers de production de connaissances sur les dix terrains. Et pour ça, on a mobilisé des outils traditionnels des sciences sociales en articulant des techniques qui mobilisent à la fois des récits individuels et des récits collectifs et qui permettent à chacun de prendre la parole. On s'est aussi largement inspiré du coup de méthodes issues de l'éducation populaire qui articulent des temps ludiques et des temps de réflexivité sur son expérience. Donc on a par exemple réalisé des parcours commentés dans la ville, des cartes mentales, on a photographié, on a filmé et on a échangé collectivement à partir des productions collectivement produites. Donc on a vraiment aussi tenu fermement l'objectif de ne pas reproduire le cadre scolaire dans le cadre de ces ateliers, dans la mesure où les jeunes avec lesquels on travaillait sont loin d'avoir tous un rapport simple à l'institution scolaire. Donc on a essayé de travailler dans un cadre convivial et chaleureux, avec des ateliers qui étaient ponctués de moments ludiques permettant de mieux faire connaissance, mais aussi de temps conviviaux autour de goûter et de repas de manière très classique. Donc les ateliers, ils ont été organisés autour d'abord de l'expérience du quartier. On est vraiment parti de cette question de l'expérience urbaine. Donc comme c'était une recherche participative, on n'avait pas fermement établi les thèmes dès le départ. Mais du coup, on a été amené à travailler sur les questions du rapport à l'histoire, des relations entre filles et garçons, de la question de la religion. Vraiment toute une série de thèmes qui traversent la vie des jeunes. À l'issue de ces travaux par terrain sur chacun des territoires, on a réuni l'ensemble des jeunes pour permettre de croiser leurs différentes analyses et puis de monter en généralité, ce qui nous a permis d'arriver à une liste qui constitue aujourd'hui les différentes entrées du livre « Jeunes de quartier, le pouvoir des mots », puisque ce livre est conçu sous la forme d'un abécédaire.
Comment l'association t'a aidé ?
Scolairement et tous les jours, en fait... Je viens travailler, faire mes devoirs et aussi faire des activités culturelles, des sorties. J'ai participé à un projet slam et ça m'a aidé à m'ouvrir, à mieux m'exprimer.
Pendant l'ensemble de la démarche, hein, ce qui me semble important à retenir, c'est que les jeunes ont bien vu qu'on travaillait avec eux, mais aussi pour eux, et que nous avions vraiment à cœur de les aider à progresser dans leur analyse. On a aussi pris le parti, une fois que les jeunes avaient construit leur analyse, de ne pas rester en dehors du jeu du débat, de nous dévoiler, de donner à voir nos points de vue quand ils étaient sollicités, de répondre aux questions posées, de parler de nos expériences aussi de vie personnelle, ce qui n'est pas forcément une posture habituelle pour des chercheurs comme pour les professionnels que vous êtes. Nous avons été engagés avec eux du début à la fin du processus et nous avons tenu les engagements que nous avons pris. La rémunération, la diffusion des résultats, l'écriture d'un livre, la réalisation d'une pièce de théâtre. On a abouti à une multiplicité de productions qui ne sont pas uniquement des articles scientifiques. Et en somme, nous avons réussi à nouer des rapports de confiance sur ces 5 années du travail partenarial. Mais dans le même temps, on a observé bien sûr des limites, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec une jeunesse ordinaire, mais qui n'est pas la jeunesse la plus marginalisée, et qu'on a aujourd'hui très peu d'écho dans la sphère politique, très peu de retours des élus et très peu de soutien politique dans la diffusion de ces recherches. Donc, pour conclure, il me semble que ce qui est à retenir, pour ce qui peut être le rôle du département, c'est que la thématique qui semble prioritaire à l'aune des résultats de cette recherche, c'est la question des inégalités. Être jeune de quartier, c'est être confronté à la question de la stigmatisation et aux discriminations, et avoir à adapter ses comportements et ses espérances en conséquence. Que la stigmatisation représente vraiment une dimension majeure de leur expérience dans les médias, à l'école, au travail, dans les rapports aux institutions et notamment dans les rapports à la police. Et que la stigmatisation conduit bien souvent à la discrimination en fonction du quartier, de la couleur de peau, de la religion, de la classe sociale, de l'habillement, de la façon de parler et de l'âge. Donc c'est un cumul, si vous voulez, de formes de stigmatisation et de discrimination. Donc ce résultat renvoie aussi à un autre, celui d'une conscience diffuse mais omniprésente, des inégalités. Donc inégalités dans l'accès à la culture, dans les études, dans l'orientation scolaire, dans l'habitat et dans le cadre de vie, notamment au regard des espaces bourgeois parisiens pour les jeunes avec lesquels nous avons travaillé. Donc la dimension socio-économique, elle a été très peu évoquée pendant la recherche, puisque les jeunes font preuve de beaucoup de pudeur à ce sujet. La précarité économique et sociale individuelle et familiale pèse néanmoins très fortement sur les trajectoires, on a pu le voir. Donc ça contribue bien entendu à limiter les possibilités de déplacement social, et ça contribue bien entendu à fermer l'avenir. Donc ce qu'on voit aussi, c'est que cette communauté d'expérience ne se traduit pas par une conscience de groupe. Ce sont plutôt des « nous » à géométrie variable qui se revendiquent. Donc encore une fois, bien qu'on ait cette catégorie « jeunes de quartier », cette catégorie reste très hétérogène et très diverse. Et donc, pour une traduction dans la fabrique des politiques publiques, considérer les inégalités de manière transversale paraît centrale, dans la mesure où on voit à quel point ça touche à différents sujets. Il apparaît nécessaire de penser la politique jeunesse de manière transversale pour répondre à ces différents enjeux. Mais y répondre implique aussi un diagnostic précis, qui ne soit donc pas porté uniquement de l'extérieur, par les institutions et les acteurs qui agissent pour ces jeunes, mais bien de manière participative, par et pour les jeunes eux-mêmes. Et j'espère que ce dont je vous ai parlé vous aura donné quelques idées pour œuvrer dans ce sens. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. Toujours le souhait aux entretiens Albert Kahn de nourrir les différentes représentations. Pour nous, c'est vraiment très très important d'aller écouter des personnes du terrain, des sociologues, des politologues, des travailleurs sociaux, pour avoir un horizon vraiment large, ouvert des sujets. Je suis très heureuse d'accueillir Nadia Idoran, élue conseillère municipale déléguée à la jeunesse à Sèvres, et qu'on ait ce retour d'expérience sur ce que vous menez au niveau du conseil communal des jeunes de Sèvres. Comment vous faites? Comment vous arrivez à capter l'attention des jeunes? Comment vous les faites travailler?
Merci de me donner la parole et de me recevoir. Du coup, le Conseil communal des jeunes à Sèvres, c'est une assemblée de 30 jeunes. On lance nos inscriptions dès début septembre. En général, on fait premier arrivé, premier servi, parce que notre CCJ, maintenant, fonctionne un peu trop bien, je ne sais pas si c'est bien de le dire comme ça, mais notre CCJ fonctionne un peu trop bien, et comme on est limité à 30, on est obligé de prendre les premiers inscrits, donc on les prend dans l'ordre. Et on a un rythme un peu particulier parce qu'on se réunit tous les samedis matins de 10h à midi, et nos réunions sont faites par des élus. On a trois commissions, donc commission solidarité, la commission sport et la commission environnement citoyenneté, et ils se lèvent tous les samedis matins pour venir faire ces fameuses réunions. Alors les jeunes du CCJ chez nous, c'est de la 6e jusqu'à la terminale. Eux proposent leurs nouveaux projets. Donc j'ai un exemple concret, les cendriers sondages. Le CCJ, la commission environnement, a proposé d'installer des cendriers sondages. Les jeunes l'ont proposé en commission, sauf que ça relevait de GPSO et pas du CCJ. Le projet a été proposé du coup au maire et au conseil, donc on en a parlé en municipalité. Donc le projet est remonté jusqu'aux élus, donc ça a été accepté. Et par contre, ils ont fait le suivi du projet. On les a fait participer aux réunions avec GPSO. Et ils ont choisi avec GPSO les lieux d'installation des cendriers. L'idée venait d'eux, donc on les a intégrés jusqu'au bout. Donc voilà.
Cette matinée consacrée à la politique jeunesse s'est terminée avec Aude Romain de Lépine. Elle est directrice de la jeunesse depuis septembre 2022 au département des Hauts-de-Seine. Juriste de formation, elle a rejoint le département en 2009, où elle a été directrice de la mission Organisation et modernisation au pôle ressources humaines et financières. Cette direction jeunesse est l'illustration de la volonté du département de disposer d'une politique claire, lisible et visible pour les jeunes de 11 à 25 ans. Aude Romain de Lépine nous a donné les contours de l'organisation de cette nouvelle direction. En résonance avec tous les témoignages entendus précédemment, cette direction a pour mission d'assurer le pilotage, la coordination et l'articulation des actions menées pour les jeunes. Elle veut aussi améliorer la cohérence et la lisibilité de l'offre déjà développée afin d'éviter la juxtaposition d'initiatives déconnectées les unes des autres.
Enfin, elle veut mesurer la pertinence et l'efficacité de ses actions grâce à la création d'une unité stratégie et études d'impact. Il ressort de cette EAK un parti pris très fort de travailler au bien-être des jeunes et une volonté de rendre les politiques publiques plus inspirantes pour eux.